VOA Afrique, les infos à Washington.
Georges Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. L'ONG britannique Global Witness a, dans un rapport rendu public aujourd'hui, accusé le fils cadet du président congolais, Denis Christel Sassou Nguesso, d'avoir détourné à son profit plus de 50 millions de dollars, 30 milliards de francs CFA, des fonds publics en 2014. Les fonds détournés par Denis Christel, 44 ans, auraient servi à mettre en place une structure d'entreprise complexe et opaque dans plusieurs pays, indique le document de Global Witness. 11 personnes sont mortes noyées et une cinquantaine d'autres sont portées disparues dans le naufrage d'une péniche sur une rivière au Kasaï, au centre de la République démocratique du Congo. La majorité des morts et des disparus venaient du territoire de Kolé, dans le Sankuru, et se rendaient à Kinshasa. La baleinière à bord de laquelle ces personnes avaient pris place était surchargée. Seules 16 personnes ont réussi à se sauver à la nage, a témoigné à l'AFP un journaliste d'une radio communautaire locale. Cet accident s'est produit dans le territoire de Dékissé, situé dans la forêt équatoriale, dans une zone enclavée de la province du Kasaï, dépourvue d'infrastructures routières, rendant la communication difficile avec Chikapa, le chef-lieu du Kasaï, distant de plus de 600 kilomètres. L'Ouganda a annoncé hier avoir commencé à tester un vaccin expérimental contre Ebola qui pourrait être utilisé dans la République démocratique du Congo voisine, où une épidémie de la maladie a fait plus de 1800 morts en un an. Le point avec Abdourahman Dia.
L'essai du vaccin MVA-BN fabriqué par la société américaine Johnson & Johnson devrait durer 2 ans selon le Conseil de recherche médicale de l'Ouganda. Quelques 800 personnes seront vaccinées. Il s'agit de professionnels de la santé et personnels se trouvant en première ligne comme les agents de nettoyage, les équipes d'ambulanciers, des morgues ou celles chargées des enterrements. Les autorités sanitaires congolaises utilisent déjà un vaccin expérimental fabriqué par le groupe américain Merck qui s'est révélé sûr et efficace. L'Organisation mondiale de la santé a préconisé une extension de son utilisation et recommandé l'introduction d'un autre produit fabriqué par Johnson & Johnson. L'ancien ministre congolais de la Santé, le docteur Oli Ilunga, qui a démissionné en juillet, s'était dit opposé à l'introduction d'un deuxième vaccin.
Le Burundi est confronté, lui, à une flambée de paludisme atteignant des proportions épidémiques qui a fait plus de 1800 victimes depuis le début de l'année, selon l'ONU, soit autant que le nombre de victimes d'Ebola en un an dans la République démocratique du Congo voisine. Les auteurs du rapport évoquent des proportions épidémiques de la maladie depuis début mai, mais le gouvernement burundais a refusé jusqu'ici de déclarer une épidémie de paludisme malgré des demandes des organisations internationales en ce sens depuis la mi-avril. La RENAMO, ancienne rébellion devenue le principal parti d'opposition au Mozambique, doit signer aujourd'hui un traité de paix définitif avec le gouvernement de Maputo, 27 ans après la fin de la première guerre civile. Il s'agit de la troisième tentative pour conclure une paix définitive entre les deux rivaux, la RENAMO n'ayant jamais totalement désarmé et ayant maintenu une partie de ses combattants dans les montagnes du centre du Mozambique. Le parti accusait le gouvernement de ne pas respecter ses engagements. Afrique de l'Ouest, des milliers de Guinéens ont assisté hier à l'inhumation dans son village natal de l'enseignant-chercheur Mamoudou Barry, victime le 19 juin en France d'une agression qualifiée de raciste par ses proches. Ekia Badou.
À Bolaroya, son village natal, la cérémonie d'inhumation hier s'est déroulée en présence de membres de sa famille et d'habitants des localités environnantes. La dépouille a été rapatriée de France samedi soir et une cérémonie a été organisée le dimanche à l'université publique Sanfonia de Conakry, où M. Barry avait fait ses études avant de partir en France. Mamoudou Barry, 31 ans et père d'un enfant de 2 ans, est mort des suites de ses blessures après avoir été roué de coups le 19 juillet dernier dans la banlieue de Rouen. Il venait de soutenir sa thèse de droit le 28 juin. L'auteur présumé de l'agression, un Français d'origine turque et présentant des antécédents psychiatriques, a été interpellé et hospitalisé. Nous sommes convaincus que justice sera rendue car les crimes racistes ne peuvent être tolérés, avait déclaré samedi soir le chef de la diplomatie guinéenne, Mamadi Touré, à l'arrivée de la dépouille à Conakry.
Dans l'univers du conte africain, dans presque tous les pays du continent, le conte a occupé une place centrale dans l'éducation des enfants, mais les traditions se perdent avec l'intrusion des téléphones portables et autres tablettes. Un enseignant malien basé à Nashville, ici dans le Tennessee, aux États-Unis, veut combler le vide. Il est auteur, entre autres, d'un recueil de contes intitulé « Soutura, la princesse Sonrai », qui est traduit en 15 langues, dont 10 africaines. Abdou Salam Maïga, enseignant donc à Nashville, au micro de Modibo Dambélé.
J'ai écrit des livres parce que l'Afrique a énormément de contes qui renferment des leçons de morale qu'il faut partager avec le reste du monde.
À la date d'aujourd'hui, vous avez combien de livres à votre actif?
J'ai 2 livres qui ont été publiés. Le premier a été publié en 15 langues, 10 langues africaines et 5 langues gréco-romaines. Et ensuite, mon second livre a été traduit en anglais et en français. En ce moment, je travaille sur un troisième livre.
Et quels sont vos thèmes de prédilection?
Les thèmes que j'aborde, c'est surtout l'éducation, les valeurs ancestrales, la morale, la justice et le social.
Quel intérêt la jeunesse africaine, singulièrement malienne, pourrait-elle tirer de l'usage des contes?
En Afrique, les contes ont servi d'école. Et chaque conte renferme des leçons de morale qui déterminent les conduites à tenir face à certaines situations. Et les contes également sont un moyen de véhiculer les connaissances. Donc, les contes, ils sont là pour nous éduquer, pour nous informer et pour nous dire ce qu'il faut faire dans la vie.
Et rapidement, est-ce que vous avez un petit conte pour la jeunesse africaine qui vous écoute actuellement?
Je parle de l'histoire de cet homme qui avait ramassé une fortune dans la mosquée. Et quand il est parti voir sa femme, il informe sa femme qu'il vient d'avoir un trésor. Sa femme lui dit « Non, tu dois retourner ce trésor à son propriétaire ». Il était vraiment déçu parce qu'il voulait garder l'or pour sa propre personne. Mais il a décidé de suivre les conseils de sa femme. Il retourne à la mosquée. Après la prière, il demande celui qui aurait perdu son or. Il y a un homme qui s'est démarqué du public, il dit « Bon, voilà, cet or m'appartient ». Il lui remet son or et l'homme a attendu jusqu'à ce que quand l'homme qui avait ramassé l'or rentrait chez lui, le propriétaire de l'or, il avait interpellé à quelques mètres de la mosquée, dit « Bon, voilà, cet or, je ne l'ai pas perdu, mais je l'ai laissé expressement à la mosquée ». Et je me suis fait la promesse de donner 100 fois le volume de cet or perdu à celui qui va l'amener volontairement. Et l'homme qui avait fait ça, il était à la recherche d'un pauvre mais honnête personne. Donc l'honnêteté, ça a toujours été une vertu que les Africains ont cultivée dans leur comportement de tous les jours.
En dehors de l'honnêteté, quelle autre leçon de morale peut-on tirer de ces contes?
C'est également la coopération entre hommes et femmes. Les hommes et les femmes doivent se compléter. Dans un foyer, il faut échanger avec son partenaire. Et ça, ça montre que l'Afrique d'antan, ce n'est pas une Afrique qui met à côté la femme. La femme a un rôle essentiel à jouer dans la promotion de la famille et de la société.
Abdou Salam Maïga, enseignant malien à Nashville, dans le Tennessee, ici aux États-Unis.
Nos infos sur voaafrique.com.
On termine avec l'actualité internationale. Le président iranien Hassan Rouhani a affirmé aujourd'hui que son pays était prêt à négocier avec les États-Unis si ces derniers levaient les sanctions qu'ils ont imposées à Téhéran. Les relations entre Téhéran et Washington n'ont cessé de se dégrader depuis le retrait unilatéral des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, suivi du rétablissement de lourdes sanctions américaines contre l'Iran, que l'administration Trump accuse de déstabiliser la région et de chercher à se doter de la bombe atomique. Les tensions commerciales entre Washington et Pékin ont été portées à ébullition ce lundi, éloignant la perspective d'un accord rapide entre les deux géants et faisant craindre un effet délétère sur une croissance mondiale déjà fragile. La Chine, qui contrôle étroitement le cours de sa monnaie, l'a laissé chuter face au dollar hier. Une douzaine d'heures plus tard, les États-Unis ont officiellement accusé Pékin de manipuler sa monnaie pour s'arroger un avantage indu en rendant ses produits moins chers à l'exportation. Après l'action de Pékin, le yuan a franchi dans la journée le seuil symbolique des 7 yuan pour 1 dollar, le niveau le plus bas depuis 11 ans. La nouvelle, vue comme une escalade dans la guerre commerciale entre les deux premières économies mondiales, a provoqué une chute généralisée sur les places financières en Asie, en Europe et finalement aux États-Unis. Et puis ceux qui jouent avec le feu périront par le feu, a averti aujourd'hui un haut responsable du gouvernement chinois à l'adresse des manifestants hongkongais qui défient depuis 2 mois le régime communiste de Pékin. Cet avertissement est le plus fort lancé par Pékin depuis le début de la contestation, début juin, provoqué par un projet de loi visant à autoriser les extraditions vers le reste de la Chine. La police hongkongaise a annoncé aujourd'hui que 148 personnes avaient été arrêtées la veille en marge de manifestations pro-démocratie. Prochain journal dans 50 minutes avec Paris Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.